Résonance sur Radio B. Alain Goudard. Bienvenue à tous et à toutes. Résonance, une invitation pour cheminer, explorer et vivre de nouvelles aventures radiophoniques. Une émission réalisée et mise en onde par Simon de Borne. Au cours de mes lectures d'été, l'ouvrage de Barbara Stiegler, Du Cap aux Grèves, récit d'une mobilisation, paru aux éditions Verdier, a retenu plus particulièrement mon attention. Les idées et la réflexion que celle-ci développe dans cet ouvrage me paraît constituer, en cette rentrée de septembre, des pistes de réflexion, de recherche fort pertinentes pour imaginer comment redonner du sens à nos manières d'agir, à notre puissance d'agir, à ce que peut être concrètement la place, le rôle de chacun, chacune, dans un commun, là où chacun agit au quotidien. Barbara Stiegler nous invite, je la cite, à essayer de réfléchir lentement et ensemble sur ce qui nous arrive, sur ce que nous traversons depuis maintenant 2 années. À ses yeux, il est vital aujourd'hui de tenter de se transformer soi-même et de comprendre ce qui nous entrave pour se redonner une réelle puissance d'agir. Fin de citation. Comme il lui paraît aussi essentiel de produire de la pensée afin d'être capable de faire face à ce qui nous arrive. Fin de citation. Elle poursuit, il est nécessaire d'imaginer des moments où l'on s'éprouve et où l'on se rencontre, où nos relations se transforment et se chargent en intensité. Il me semble que la radio peut constituer l'un de ces outils, l'un de ces moyens pour s'éprouver, pour se rencontrer les uns les autres, pour accueillir des points de vue pluriels, mettre en tension ceux-ci pour produire de la pensée, pour comprendre, entendre l'autre, accueillir l'autre et pour se donner une puissance d'agir. Des notions qui semblent difficiles aujourd'hui et qui font face à beaucoup d'intolérance. C'est en étant à l'écoute de multiples initiatives et projets, de chercher à partager la pensée qui les anime, de participer à sa circulation auprès du plus grand nombre pour créer de l'envie, mettre en synergie, en ébullition. Être une chambre d'écho, un réceptacle de ce qui se vit, s'entreprend, s'invente, se réfléchit, se pense. Ce sont ces questionnements, et c'est ce à quoi travaille Résonance lorsque nous imaginons le contenu de ces rendez-vous radiophoniques que nous avons le plaisir de partager avec vous. Résonance sur Radio B, la radio, un espace essentiel de lien, d'inventivité, de recherche, d'exploration. Là, nous venons d'entendre le duo Tikia Ta Undia Chalaparta, composé de Jean-Claude Henrique et de Chomin Ders, qui nous interprétait Aranea Deia. Pardonnez-moi pour mon basque, puisque nous avons affaire à des musiciens basques. Et cette pièce nous propose d'entendre une forme de rythme ancien. C'est ce que nous indique Jean-Paul Henrique. On dit qu'il servait ce rythme ancien à d'appels différents selon la façon de le jouer. Ici, ces rythmes sont mixés avec des appels de cornes et conques qui servaient pour annoncer ou appeler. Cet appel, à travers les cornes, les conques, la chalaparta, est effectivement un appel à la rencontre, à accueillir l'autre, entendre l'autre dans toute sa diversité, sa pluralité. Dans la pratique de la chalaparta, on s'éprouve soi, on s'éprouve dans et avec l'autre. En soi, cette pratique instrumentale qui est née dans le Pays basque, à laquelle nous avons consacré une série d'émissions l'année dernière, constitue un espace, une manière concrète d'approcher, de mettre en travail les questionnements que j'évoquais en introduction. La chalaparta se composait à l'origine d'une épaisse planche, assez longue, choisie pour sa sonorité et sa capacité à vibrer. Les défauts, que ce soit les nœuds ou les trous, offraient aux joueurs des zones de sonorité variées. Elle était posée à plat sur deux paniers renversés, en châtaignier tressé. Quelques feuilles de maïs ou des peaux de brebis servaient de séparateur entre la planche et les paniers. Cette planche était frappée verticalement par deux joueurs, avec deux grands bâtons, maquila, chacun frappant en alternance deux coups au rythme d'un battement de cœur, chakung, chakung. Le jeu de la chalaparta a été sauvé par les frères Artsé, alors qu'ils allaient doucement s'éteindre, en privant ainsi d'une pratique musicale essentielle liée à la célébration du cheval archétypique, celui des grottes d'Istouritz ou d'Équin, et celui qui trotte toujours dans les montagnes basques. Les frères Artsé en ont ainsi saisi l'immense portée musicale et l'ont joué dans toute l'Europe depuis les années 70. À leur suite, de nombreux musiciens se sont saisis de cette pratique, assimilant peu ou prou les dimensions philosophiques et musicales essentielles qui n'ont pas échappé, par exemple, à des compositeurs comme John Cage, Luis de Pablo, on pourrait penser aussi également à Steve Reich, ainsi que de très très nombreux musiciens et compositeurs. Nous poursuivons aujourd'hui l'approche de la chalaparta, une pratique musicale qui nous livre ainsi des enseignements essentiels sur l'improvisation et place le musicien au cœur intime du monde sonore. Je vous propose donc de nous rendre dans le Pays basque, à Saint-Jean-de-Luz, où nous avons pu échanger, rencontrer avec des musiciens qui nous parlent de la richesse de la pratique de la chalaparta. Ces interviews se sont déroulées dans les jardins chaleureux et accueillants de l'hôtel Oartia et je remercie vivement la famille Audibert pour leur hospitalité et de nous avoir facilité la réalisation de ces interviews. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Thierry Biscari. Originaire de la Basse-Navarre, Thierry Biscari interprète, chante la musique traditionnelle, les musiques du monde, la musique classique. Il est autodidacte, auteur et compositeur. Alors, quelques éléments de son parcours. Par exemple, en 2006, il rencontre ce duo célèbre de pianistes, Katia et Maria Labeck, avec lesquels il travaille sur le projet du boléro de Ravel, avec des instruments basques. C'était leur idée. Et bien sûr, la chalaparta a été insérée dans ce travail sur le boléro de Ravel, remplaçant la rythmique que nous connaissons, jouée à la caisse claire, mais là, jouée sur la chalaparta, cette poutre Montmartre dont je parlais il y a quelques instants. Plus tard, en 2009, il crée le groupe Calacan, avec lequel il multiplie les collaborations avec différents musiciens des musiques du monde, Oreca Cha, Artus, du milieu classique, Freddy Eichelberger ou Yves Reichsteiner, et de la pop aussi, puisqu'il travaillera à un moment donné, croisera à un moment donné la route de Madonna. En 2018, il compose et arrange son premier disque, intitulé Manez et Cobriac, avec un groupe de cuivres chanteurs. En 2019, il collabore avec la chanteuse Zaz et participe à la sélection officielle du Festival d'Avignon avec le spectacle de danse Oscara de la compagnie Kukai. En 2020, il publie son second disque, intitulé Mouda, la mue. Il est aussi acteur et compositeur, comme on l'entendra dans cette interview, pour le film Atarabi et Mikelatz de Gene Green. En parallèle, il poursuit aussi son travail de transmission au travers d'ateliers de chant dans diverses villes basques. Avec Capilata Productions, il initie également un vaste travail de production basé sur le riche vivier d'artistes basques, connus ou inconnus du grand public. Rejoignons maintenant Thierry Biscari. Thierry Biscari, bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas de nous accorder un petit moment dans un emploi du temps quand même un peu serré aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui c'est un peu juste.
Ici à Saint-Jean-de-Luz, puisque tout à l'heure au Rex, hein, au cinéma, vous êtes aussi là parce qu'il y a un film aussi qui vous concerne,
voilà,
dans lequel
ouais.
vous êtes. Peut-être quelques mots d'ailleurs sur ce film.
Eh bien, c'est un film de Gene Green, donc un réalisateur qui vit à Paris. Il est originaire des États-Unis. Quelqu'un qui a un cinéma très singulier, très particulier, qui a démarré plutôt tard dans sa carrière et qui a fait pas mal de films et aussi qui a écrit des romans et qui s'est intéressé pas mal au Pays Basque depuis quelques années. Et du coup, j'ai participé à un documentaire qui s'appelait « Faire la parole » du même réalisateur. C'était un documentaire qui avait un petit peu de fiction aussi dedans. Et il m'a proposé de faire une fiction, voilà. Donc je me retrouve
passionnant
dans un truc qui traite de la mythologie basque.
C'est un
mythe qui s'appelle Atarabi et Mikelatz, voilà. Et je fais le diable, voilà.
Ah, carrément,
ouais, carrément. Et puis il m'a demandé de la musique aussi, donc j'ai fait de la musique aussi pour le film. Voilà, et du coup ce soir on a c'est la deuxième soirée de présentation. Le film a été présenté il y a un an au festival de Cinémaldia à Donostia, mais il n'a pas été présenté en France encore, puis avec le Covid ça c'était compliqué, donc c'est maintenant que ça sort, quoi. Voilà. Et les premières présentations ont lieu à Paris, donc en début au milieu de semaine là. Et là voilà, c'est la deuxième à Saint-Jean-de-Luz où on fait donc un petit concert de 30 minutes, et ensuite c'est le film. Donc là, je partage, je chante avec Maddy Oyenart, qui est une chanteuse souletine, et un guitariste qui s'appelle Jérémy Garat, qui a fait un disque, des arrangements pour Maddy Oyenart il y a quelques années, et qui m'a fait mon dernier disque, voilà, des arrangements sur mon dernier disque, voilà, et qui joue avec moi donc, en ce moment. Bref, on a 30 minutes, et moi, je suis très content, parce que c'est...
Oui, j'imagine.
Voilà,
une nouvelle aventure.
Oui, c'est une nouvelle aventure, voilà, hein, c'est ça, exactement.
Oui, pour rappeler à nos auditeurs, là on est sur le côté acteur, comédien, mais aussi vous êtes musicien.
Oui, je suis chanteur en fait.
Vous êtes chanteur en réalité.
C'est ça,
hein.
C'est ça.
Et peut-être, je crois que vous êtes né du côté de Saint-Jean-de-Pied-de-Port.
Voilà, c'est ça, je viens d'un petit village,
village.
Qui s'appelle Anox, qui a à peu près 300 habitants aujourd'hui.
Mais qu'à un moment donné... j'ai lu aussi quelque part que la voix, c'était quand même quelque chose qui... Le goût du chant, c'était quelque chose qui vous intéressait beaucoup.
Oui, moi j'ai de la chance un peu d'être... d'être né à une période où le chant se pratiquait pas mal autour de moi.
Ouais.
Voilà. Donc j'ai pas de grand mérite. Moi, c'est par imprégnation que j'ai
c'est
appris,
ça, ouais.
Avec l'oreille, quoi.
Oui.
C'est la tradition orale.
Oui, parce que la famille, parce que les amis, parce que
voilà,
dans le village...
Voilà, c'est ça, exactement. Autour de moi, ça chantait... Mes parents ne sont pas du tout musiciens, je ne viens pas d'une famille de musiciens du tout, mais j'ai aimé ça très vite et très jeune. Et j'ai démarré par contre assez tard, j'ai dû démarrer mon premier groupe, je pense, vers 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, je n'ai pas arrêté par contre, depuis je n'ai pas arrêté, j'ai fait ça en amateur pendant longtemps, et puis en 2009, je me suis mis Bah, j'ai décidé de faire ça de manière professionnelle, voilà.
Oui, c'est ça. Il y avait le choix entre, quelquefois, comme pour beaucoup, des études dans une direction, de se dire cette passion qui était là, et de se dire je m'y lance ou je m'y lance
ouais,
pas.
Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai essayé pendant très longtemps de suivre, on va dire, le chemin normal, voilà. Donc,
vers quel métier,
moi, j'ai travaillé dans le milieu culturel quand même, pas mal.
D'accord, oui, quand même.
Dans un cinéma, j'ai été projectionniste, j'ai été... Moi, j'ai fait pas mal de boulots différents. J'ai été un médiateur culturel au moment des emplois jeunes. Voilà. Et j'ai eu un projet de reprendre l'exploitation familiale. Et puis finalement, j'ai abandonné ça au dernier moment, quasiment au dernier moment.
Ouais.
Mais pour me consacrer justement à ça, à la musique. Parce que bon, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Et puis je le sentais. Et puis c'était... Voilà, ça a été difficile de prendre la décision parce qu'il fallait dire non un peu à tout le monde,
choses,
à mes parents notamment.
Ouais.
Mais voilà, je regrette vraiment pas. J'ai eu une très belle expérience après ça, et j'ai travaillé avec un groupe qui s'appelle Calacan notamment,
oui,
avec lequel on a fait beaucoup de choses, quoi.
Ouais.
Et puis j'ai laissé ce groupe-là fin 2016, et là je me suis mis à faire mes chansons.
Oui, je reviens un petit peu sur l'idée de groupe. Je crois que c'était quelque chose qui a été assez formateur pour vous, en tout cas, ou une certaine importance, en tout cas, pour vous, d'être en collectif pour la musique.
Moi, j'ai fait que ça jusque-là, ouais. Jusqu'en 2018, j'ai fait que des groupes. J'étais que dans des groupes.
Donc, c'est le groupe qui est le lieu à la fois d'apprentissage, d'expression, de création.
Ouais, c'est ça. Le partage,
Oui, aussi.
Voilà, l'idée d'amener un petit bout, puis que l'autre amène un autre petit bout et que ça fasse quelque chose de nouveau. Voilà, moi, j'ai toujours aimé ça, partager, quoi. La Chalaparta, c'est ça aussi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris,
comment vous l'avez rencontré,
un copain qui me l'a montré. Ouais. C'était un copain-collègue, en fait, quand je travaillais dans ce cinéma à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ben, en fait, entre midi et deux, on a commencé à... Il savait jouer la Chalaparta, j'ai dit, tiens, montre-moi. Et puis j'ai commencé avec lui, et puis c'est parti comme ça, quoi.
Ouais.
Oui,
parce que c'est aussi ce qui est intéressant, je trouve, dans cette pratique de cet instrument très traditionnel, on peut le rappeler. En tout cas, je crois qu'au départ, c'est deux paniers, une planche disposée dessus, et puis avec des bâtons, on va aussi une rythmicité, mettre en vibration et en résonance aussi cette planche.
C'est ça.
Et ce que je trouve aussi assez intéressant, finalement, outre la sobriété de cet instrument, mais aussi tout son côté magique par les harmonies, par le son, la vibration aussi qu'il peut engendrer, c'est que du coup, comme vous le disiez, c'est un instrument quand même fait pour la rencontre avec l'autre, quoi, puisqu'on va le jouer à deux, hein,
Oui, c'est ça qui m'a plu, moi. J'ai aimé parce que c'était facile, déjà, d'une part. C'est très ludique, c'est très facile. D'abord, de prime abord.
Après, il faut travailler, bien évidemment.
Il y a un gros travail. Mais voilà, moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait qu'il faut être très à l'écoute de l'autre.
C'est ça.
Et vraiment, on partage le rythme, on se suit, on s'écoute. Voilà, ça, j'ai beaucoup aimé.
Une histoire un peu de se glisser dans les pas aussi, un peu de l'autre.
Voilà, c'est ça, respecter l'espace de l'autre, que l'autre respecte le sien. Il y a ça, il y a ce côté improvisation que j'aime beaucoup.
Oui.
Voilà, on peut improviser très rapidement parce qu'on se base sur quelques coups très simples et à partir de ça, on improvise. Et ça, moi, je ne me suis jamais considéré percussionniste. Bon, maintenant, je l'écris, mais je suis un peu percussionniste, mais c'est pas réel parce que je suis vraiment chanteur, c'est ce que je sais faire. Mais j'ai aimé ça, la liberté qu'offre cet instrument à quelqu'un qui n'est pas spécialement percussionniste de pouvoir... Voilà, soit échanger avec l'autre Chalapartari, soit on a commencé à travailler avec d'autres gens aussi,
bien sûr,
au bout d'un moment. Et ça a été intéressant. Voilà, moi, j'ai rencontré les sœurs Labec comme ça, avec la Chalapartari.
Oui, alors comment est venue cette idée? J'ai lu effectivement qu'à un moment donné, notamment sur le Boléro de Ravel, on se souvient que la rythmique, elle peut être tenue par une caisse claire, par exemple.
Totalement.
Et l'idée, c'est elles qui l'ont proposé, ou comment s'est faite cette idée, finalement?
C'est un peu curieux. Ça a démarré ici, justement, à quelques mètres d'ici, au kiosque de Saint-Jean-de-Luz.
Oui, parce qu'on peut dire que les sœurs Labelle viennent très régulièrement.
Oui, voilà, elles sont originaires d'ici.
Elles sont
d'Andaï, voilà. Elles sont nées en Andaï, et puis elles ont démarré leur carrière très jeune, à 16 et 17 ans, respectivement. Mais bon, elles ont appris le piano avec leur mère, puis elles sont parties à Paris. Mais elles ont gardé le lien avec le Pays Basque, elles revenaient tout le temps, puisque leurs parents habitaient ici.
Ouais.
Et donc, en fait, c'est un musicien d'ici qui leur a soufflé à un moment donné, qui leur a dit, vous savez, Ravel était basque. Il savait parler le basque, sa mère parlait basque, mais lui aussi, il connaissait la culture basque. Et puis voilà, tout à coup, elles ont eu cette idée de...
Pourquoi
pas essayer d'attaquer le Boléro de Ravel sur sa partition initiale qui était pour deux pianos.
Oui.
avant d'être orchestral.
Avant d'être orchestral,
voilà. Ouais. Et du coup, d'y greffer des instruments traditionnels basques, notamment la chalaparta. Voilà. Et moi, je me suis retrouvé là-dessus comme ça. C'est très...
incroyable.
Ouais, ouais, incroyable, c'est vrai. C'est...
Et quelle sensation ça vous a produit aussi, vous qui avez déjà commencé, on le disait il y a quelques instants, je dirais là par rapport à la forme musicale et au fait que cet instrument, tiens, on lui fait être autre chose à un moment donné, que par essence c'est la rencontre avec l'autre, c'est l'improvisation, et là hop, il se trouve dans une œuvre écrite, voilà, avec quelque chose de très défini.
C'était un peu incongru au départ, vraiment. Ouais, ouais. Moi au départ,
vous étiez interpellé.
Oui, oui, bon, j'ai fait l'enregistrement pour le disque, ouais. Voilà, ça s'est passé comme ça, mais quand elles ont proposé la tournée ensuite, ouais, je sais pas, j'avais des doutes vraiment, à tel point que j'ai envoyé d'autres musiciens au départ, je voulais pas y aller parce que j'étais sur un autre projet, justement ce projet de faire mon berge à la maison, je voyais pas. Et puis bon, finalement ça s'est pas fait, la première fois la tournée s'est pas faite, elles l'ont proposé 2 ans plus tard, et là j'avais changé d'optique, je savais que je voulais devenir musicien.
Donc ça résonnait différemment plein, pour vous, quoi.
Et puis voilà. Je dis bon, je vais tenter. Puis le gars, j'avais changé de partenaire de chalaparta. Le gars, il s'appelle Pascal Endo, je joue avec lui. Et puis je lui dis, Pascal, tu le vois? Ouais, lui il le voyait. Ah, lui c'était clair, il avait pas de problème. Lui, ok, donc on y a été. On a commencé à travailler. Bon, l'ostinato, très simple, voilà. Se partager le temps, etc. Vraiment sur le mode de la chalaparta. Ça n'a pas grand sens, hein, parce que c'est vrai, la chalaparta, c'est l'alternance, c'est l'improvisation. Là, c'est très écrit, voilà, il n'y avait pas... Mais comme on a commencé, il y avait la chalaparta, mais il n'y avait pas que ça. On tapait la percussion, l'ostinato sur le corps.
Ah oui.
On tapait sur un tambour, on tapait sur un chépèche, c'est une petite, une demi-coquille de noix avec une languette en bois, voilà, avec lequel on faisait le même ostinato. Bon, on faisait une progression, finalement, on suivait la progression de l'orchestre, quoi, mais avec juste
toute cette petite,
rien, quoi. Des grelots, des bouts de bois, enfin voilà. Et en fait, ça prenait corps, ça le faisait. Elles étaient interpellées, elles trouvaient ça bien. Et on l'a présenté en 2009, au Festival de Radio France à Montpellier. D'entrée, elles nous ont demandé de faire le bis, ce qui était un peu osé quand même. Quand j'y repense, même très osé.
Ouais.
Et là, j'ai dit, bon, on va chanter. Et voilà, puisque moi, c'est ce que je sais faire avant de faire la chalaparta, c'est quand même... Et on a chanté, ça l'a fait de suite, a marché. Et du coup, à chaque fois, et on a tourné avec elle, on a été dans les plus grandes salles européennes à partir de là, sans micro.
C'est ça.
Ce qui était incroyable pour nous.
Bien sûr, bien sûr.
D'avoir 2000 personnes devant nous
qui écoutent
nous écoutent religieusement,
c'est ça.
Tu vois.
C'est ça.
On a fait une improvisation de chalaparta après le boléro, on a chanté. Et ça a marché, et du coup, ça nous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien, personnellement.
Oui. Oui.
Parce que évidemment, la chalaparta, ça reste au Pays Basque. Au Pays Basque Nord, ici, en Iparralde, c'est très confidentiel quand même.
C'est ça, oui. On peut tout à fait dire ça.
Oui, moi je trouve que c'est confidentiel quand même. Voilà, là, il y a quelques personnes qui en jouent. À l'époque, il y avait quelques personnes qui en jouaient, mais c'est confidentiel. Comparé au Guipuscoa, où c'est quand même... La chalaparta avait quand même une autre ampleur. C'était devenu vraiment une icône, quoi, voilà. Mais là, non, là, nous, c'était un autre rapport. Et là, tout à coup, voir que les gens vibrent avec ça.
C'est ça.
Voir que quand on chante, les gens aussi, on les attrape, on a des gens qui pleurent, tout ça, qui ne comprennent rien à ce qu'on dit, mais qui sont émus. Donc ça nous a fait du bien, vraiment. Et c'est les Labecs là, qui nous ont poussés vraiment à développer sur le répertoire traditionnel, ce qui n'était vraiment pas mon propos.
Votre propos au départ.
Moi, je faisais des chansons, je venais du... Oui, je viens de ça, c'est mon milieu, mais moi, j'ai pas de mérite. J'étais quand même un peu comme Obélix, quoi. Je suis tombé dedans, c'était autour de moi. Je valorisais pas spécialement ça. Moi, je cherchais plutôt, au contraire, à...
Peut-être à vous en sortir, peut-être.
Non,
à aller
à créer, quoi. Oui. À essayer de faire, de proposer des choses. Ouais. Voilà, sans grande prétention là non plus, mais vraiment créer, c'est ce que je cherchais, quoi. À faire de la chanson, quoi. Et c'est ce que je suis revenu à faire ça, finalement, parce que c'est ce que j'aime. Hein.
C'est ce que vous aimez, c'est là où vous vous sentez juste, entre guillemets.
Oui, parce que la tradition, c'est... j'ai appris depuis que c'était notre monument sacré, et c'est vraiment les sœurs Labec qui m'ont fait prendre conscience de
conscience.
Ça, qu'on avait quelque chose à dire avec ça, et ça, je sais, indéniable, je peux pas dire le contraire.
Bien sûr.
Mais à la fois, voilà, ce monument-là, quelque part, il m'a été légué. Et il y a des gens qui sont plus âgés que moi, qui sont encore vivants, qui sont... Voilà, Mayo Yenart, c'est le cas. Voilà, et Ramon Marti Corena, et plein d'autres que je pourrais citer qui sont encore là, qui ont fait, énormément, qui ont des choses encore à dire avec ça.
Ouais.
Et moi, je me sentais plus d'une génération en dessous, plus jeune, qui, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais dire de plus, quoi, tu vois, je vois pas.
Je comprends.
Donc, par contre, je peux créer des choses parce que je sais,
je connais
le répertoire et moi, je peux peut-être amener d'autres chansons et voilà. Et du coup, quand j'ai eu le sentiment d'avoir fait un peu le tour avec Alakan, quoi. Ce groupe que les Lerbeck nous ont vraiment poussé à faire.
Ouais.
Ben là, j'ai dit, peut-être que je vais me remettre à faire des chansons. Puis, voilà. Puis je suis parti sur ça. J'ai fait un disque, un autre disque. Et puis je suis dans cette dynamique, quoi. Finalement, j'ai rencontré plein de gens.
C'est ça.
J'ai découvert qu'on pouvait solliciter des grands noms. Pour nous, qui sont des grands noms, des références, quoi. Des Bertschulari, des gens qui sont des
personnalités vraiment fortes.
Des poètes, quoi, des gens qui savent écrire, quoi, vraiment, qui sont très fins, qui ont une connaissance de la langue que j'ai pas, qui savent vraiment, voilà, qui sont poètes, quoi. J'ai pas d'autres mots, quoi.
Bien sûr.
Je sais faire des mélodies, mais après mettre des mots, c'est autre chose. Donc j'ai commencé à travailler avec eux, et ils ont
donc il y a une relation comme ça très étroite avec un certain nombre d'auteurs, de poètes.
Voilà, Italo Borda, par exemple, qui était là hier soir à la projection justement du film de Gênes. Qui a traduit tout le film, qui est prodigieuse, qui écrit beaucoup. Voilà. Ouais. Et donc, elle m'a fait des textes. Et moi, je me suis attaché à ça. Et j'ai beaucoup aimé.
Et donc, ça, c'est intéressant. C'est cette relation avec un auteur. C'est une relation privilégiée aussi entre un musicien et un auteur.
Oui, ça prend corps. Je rejoins un petit peu le travail que je faisais avec les groupes aussi. C'est-à-dire que ça ne m'appartient pas totalement. Voilà, on crée, c'est une œuvre commune, quoi.
Là, il y a aussi, de part et d'autre, des éléments à partir desquels la créativité va faire jour.
Ouais, c'est ça. Et c'est le travail avec Jérémy Garat sur le dernier disque aussi, qui a amené, moi j'avais fait un travail déjà au préalable d'arrangement, tout ça, mais lui, il a amené un vrai plus, quoi. Voilà, moi j'aime ça, je suis dans cette dynamique à l'heure actuelle. Et là, Chalaparta, donc, puisque quand même c'était le propos entre nous aujourd'hui.
Bien sûr.
Je l'ai mise un petit peu en retrait. En retrait, ouais. J'ai terminé cette année un DEM de musique traditionnelle au Conservatoire de Bayonne.
Oui.
J'ai fait un travail quand même autour de la Chalaparta pour.
Intéressant.
J'ai été interrogé, Juan Mari Beltrán. J'ai été interrogé Arcaïtz Martinez, qui avec lequel je collabore régulièrement.
Oui.
Mais j'ai été vraiment interrogé sur l'instrument pour essayer de comprendre en fait. Quand dans les années 60, on avait ce que vous avez décrit, donc une seule planche sur des paniers en osier, comment on se retrouve avec beaucoup plus de planches.
Alors voilà, dites-nous un petit peu, comment aujourd'hui c'est quoi, 3, 4, 5
planches. Voilà, ça peut être beaucoup plus de planches, c'est 3, 4, 5, ça peut être, eux ils jouent des planches, 10 planches par exemple par moment, ou ils jouent de la pierre aussi, ils jouent tout un lithophone, quoi, carrément,
c'est 27, ça, on a les lithophones aussi.
Voilà,
donc là, on devient vers le clavier.
Voilà, c'est ça.
Un nouveau clavier.
On est en train d'aborder un autre. Enfin, de faire évoluer l'instrument différemment. Et pourquoi pas? Je veux dire, c'est une variante. Ça prend une autre forme aujourd'hui, mais demain, ça sera certainement autre chose. Moi, je trouve ça intéressant parce que justement, c'est pas figé.
Oui.
Jean-Claude Henrique, il a attaché une chalaparta plus traditionnelle que j'ai moi pratiquée, à laquelle je suis attaché aussi.
Oui.
Mais à la fois, j'ai fait des hérésies puisque j'ai fait la chalaparta écrite avec les sœurs Labec.
Oui, tout à l'heure.
Mais c'est pas grave, je veux dire, c'est pour moi, ce qui compte, c'est que ça vive, c'est qu'on essaye choses, on expérimente.
Et est-ce que, quand vous avez fait préparer ce DEM, justement, et avec cette thématique, justement, en choisissant la Chalaparta, et dans ce que vous avez pu observer ou rassembler, est-ce qu'il y a d'autres personnes, musiciens, aujourd'hui, qui, dans l'esprit où vous êtes, se disent, tiens, bien sûr, ils ont découvert aussi ou pratiqué cet instrument par son aspect traditionnel, mais aujourd'hui, sentent une nécessité de la faire voyager ou trouvent des modalités encore autres que celles que vous exprimez.
Bien sûr. Là, par exemple, dans le cas du mémoire que j'avais à défendre à l'oral, il y a Beignat, par exemple, Beignat Ilusta, Beignat Raya, il s'appelle exactement. Il est de Donosti aussi. Et lui, il avait travaillé en Suisse, à Genève, dans l'école, à l'école de, je ne sais plus comment elle s'appelle cette école, c'est la haute école de musique. C'est
la haute école de musique, ouais, c'est l'HEM de Genève, vous voyez,
voilà, tout à fait. Il a travaillé là-bas, donc sur la pédagogie, je ne sais plus comment il s'appelle le pédagogue en question, mais bon, une pédagogie qui est enseignée dans cette école-là. Donc il a travaillé sur comment enseigner la Chalaparta.
Dalcroze, peut-être.
Voilà, la Dalcroze, voilà,
exactement. Qui est un rythmicien.
Voilà, exactement. Mmh. Et c'était intéressant, justement, de voir comment lui, on a fait une intervention au mois de février, ensemble.
Oui.
Et j'ai beaucoup aimé, justement, lui, il a vraiment, il est très préoccupé par l'improvisation, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelle liberté, le lien au corps. Mm. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé parce que je l'ai abordé comme ça. Moi, j'aborde en général la musique par le corps parce que je ne sais pas lire la musique. Moi, je ne lis pas la musique, je n'écris pas la musique.
Mais vous la vivez.
Mais je la vis, c'est mes oreilles qui me permettent de faire ça et je compense quoi, finalement ce handicap, parce que c'est quand même un handicap. Hein. Mm. Quand je travaille avec des musiciens comme les Labeck, notamment, c'est un handicap.
Oui,
mais à vrai dire, voilà, j'ai vu avec lui que non, cet instrument, il a vraiment ce pouvoir-là de mettre
en jeu
le corps, de cet équilibre-là, ce déséquilibre-là.
Oui.
Et ça m'a beaucoup plu de re-questionner ça.
C'est intéressant ce que vous dites entre équilibre, déséquilibre.
Ouais,
parce qu'on sent bien que dans cette manière de jeu, il y a, bien sûr, on est debout. Vous rappelez à nos auditeurs, on est debout, on est devant cette planche. Mais en même temps, il y a du entre. Il y a à la fois la frappe, mais en même temps, il y a tout ce qui est dans les entre.
Et oui,
en même temps, qui fait qu'on a un double équilibre, déséquilibre.
C'est
ça. Et que c'est une sensation assez particulière aussi.
Ah, totalement. Et puis là, on doit être à l'écoute de son corps, on doit être à l'écoute de l'autre aussi.
Oui.
Avec l'oreille, avec les yeux, avec tout ce qui est sensible, on est en rapport avec ça. Et ça, je trouve, je sais pas, moi, j'ai pas pratiqué beaucoup d'instruments dans ma vie, quoi. Donc c'est vrai que celui-là, il m'a offert ça, ce rapport-là, il m'a rappelé ça, que c'était important. Et quand je chante avec Mayo Yenart, hier soir encore, je suis vraiment dans cette dimension. Je suis avec elle, je fais corps avec elle, quoi.
C'est ça.
Comme dans la Chalaparta. Et ça, c'est. On m'a fait la réflexion aujourd'hui. On m'a dit, tu sais, c'était vraiment saisissant là. On a chanté a cappella hier, un seul chant ensemble. Ouais. Et c'est vrai. C'est une autre musique. C'est pas la musique qu'on retrouve
principalement qui est
dans les radios,
ou...
dans les médias de masse. C'est pas la musique que j'ai pu pratiquer avec Alakan, avec Madonna, c'est pas ça. On est dans l'industrie, là, on est dans quelque chose de très normé, de très.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais il y a cette musique qui existe aussi.
Tout à fait.
Qui peut toucher les gens, qui peut les prendre très fort. Et me prendre et les prendre. Et ça, c'est. Moi, je suis attaché à ça. Voilà. C'est ce qui moi, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui donne
peut-être
sens
aussi,
à ça. Quoi.
Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, cette émotion que vous disiez,
voilà,
notamment dans, quand il y avait le concert avec les Sœurs Labelle, Labeck. Peut-être que aussi, entendant, voyant, percevant aussi des musiciens complètement impliqués dans leur corps, dans leur manière d'être, peut-être leur font peut-être aussi sentir ce que ça peut être autre, la musique, que quelque chose. Vous le disiez tout à l'heure, lorsqu'on évoque un peu quand même une certaine partie de la musique médiatique ou autre, qui ne repose pas forcément ou qui est assez artificielle au niveau du corps. On bouge, on peut voir des corps bouger, on peut voir des choses, mais qui n'est pas forcément fondée véritablement sur des...
Qui est très produite, donc c'est un autre travail.
C'est un autre travail.
Voilà, ça laisse pas énormément de place à...
C'est ça.
Oui, à l'improvisation, mais c'est pas que l'improvisation.
Non, je pense, voilà, c'est ça, oui.
C'est à cette sensibilité-là.
À cette authenticité que peut représenter la musique aussi également, et qui fait qu'on se retrouve finalement. Peut-être que d'autres se retrouvent.
Et dont ils ont besoin, hein, cela dit, dans l'industrie. Hein. Moi, ce que j'ai découvert à Madonna, c'est ça, c'est qu'elle recherchait ça, elle a besoin de ça. Sans ce matériau-là, elle ne crée pas non plus. Donc, mais cela dit, voilà, moi, ce que le Covid aussi nous a montré, m'a montré en tout cas, m'a montré, c'est que voilà, on est rien quoi face à ce petit truc là. Et ce petit truc, il nous dit juste attends, peut-être que les grandes jauges des stades, c'est peut-être pas viable en fait. On a peut-être besoin de retrouver un contact avec des gens, des jauges beaucoup plus petites, des gens plus proches, etc.
Tout à fait.
On a besoin de retrouver l'essence quoi de ce que c'est. Et ça. Moi, c'est comme ça que je prends cette leçon-là, en tout cas.
Il a renforcé notre vulnérabilité, notre fragilité humaine.
Il nous rappelle ça, qu'on est humain et que voilà, on n'est pas. On peut essayer, on peut se mettre deux doses de Pfizer, de ce qu'on veut. on peut encore transmettre, tu vois, ce virus-là, une variante, etc. Donc, ça veut dire que ben, le monde vivant, il est autour de nous, il est là. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et moi, si je le ramène à la musique, oui, le monde vivant, il est autour de nous. On ne peut pas manger de la fraise au mois de décembre. Ce n'est pas possible.
C'est reprendre conscience du vivant.
Ouais, la fraise, elle arrive au mois de juin, quoi. Voilà.
Exactement.
Et ça, si ça, on devrait le savoir. Moi, je le sais parce que je suis fils d'agriculteur. Mais beaucoup de gens autour de moi, moi, je vis en ville maintenant, ils ne le savent pas.
Bien sûr.
Et de la même manière, la musique que je pratique, elle est fragile.
Bien sûr.
Elle est, je chante en basque, je ne chante pas en anglais.
Elle exprime des vulnérabilités
et,
aussi.
Et ils ont besoin de nous aussi. Les gens, quand ils viennent au concert maintenant, on voit bien la soif qu'ils ont. Quoi. Ils ont besoin de nous.
Oui.
On a besoin d'eux.
Bien sûr.
C'est indéniable. Alors, moi, j'ai vraiment besoin du public. Mais le public a besoin de nous, on a besoin de vibrer.
Bien sûr.
Pas tout le monde peut-être, il y a des manières de vibrer dans un stade.
Elle peut être complètement libre, ces manières-là.
Je ne mets pas ça en opposition.
On peut
vibrer dans un stade, on peut vibrer aussi dans un grand spectacle, ce n'est pas un problème. Mais on ne doit pas oublier que quelqu'un qui vient chanter a cappella sans rien, il a le pouvoir de te faire vibrer, quoi, vraiment fortement.
Absolument.
Et ce qui est beaucoup plus difficile, en comparaison du coup, quand on est dans un stade et qu'on a la chanteuse à l'autre bout là-bas.
Et qu'on la voit toute petite.
Ouais,
et...
ou dans un grand écran. Voilà.
C'est ça.
La vibration,
c'est ça.
Elle n'est pas au même endroit, en tout cas, elle ne se situe pas au même endroit.
En tout cas, exactement, on n'est pas au même endroit, on ne recherche pas la même chose, les enjeux ne sont pas les mêmes,
c'est ça.
Et on place la culture à un autre endroit.
Voilà.
Et je pense que vous avez raison.
Donc moi c'est ça, ça me ramène à ça, ça me ramène à cette fragilité, à cet artisanat quelque part.
Oui.
Hein,
on
parle d'artisanat et d'expliquer que comme le font très bien d'ailleurs autour de moi depuis des années les agriculteurs, quand ils font un fromage, ils le vendent 18 € le kilo, mais ça a un prix quoi.
C'est ça.
C'est un prix, mais ils peuvent l'expliquer.
Oui,
ils savent d'où il vient. Et moi, je peux expliquer aussi comment je fais ma musique. Quand je travaille le Bertschulali, si je le paye, je sais combien ça coûte. Et je sais combien ça coûte de faire un disque. Totalement, j'auto-produis mes disques. Je peux expliquer ça à quelqu'un. On ne le fait pas parce que, on le fait peu. Moi, je le fais de plus en plus. Mais
c'est important d'expliquer ça. Parce que les gens n'ont pas conscience non plus.
Parce que les gens vont chez Spotify ou chez Deezer ou je ne sais pas, sur des plateformes comme ça. Ils payent 10 € par mois. Mais 10 € par mois, moi, j'en touche rien. Hein.
Absolument.
Et c'est important d'expliquer ça quand même, d'expliquer que moi j'ai besoin qu'on m'achète des disques, même si le disque, j'ai bien conscience que
c'est plus aujourd'hui.
On n'a pas forcément le lecteur de disques.
Oui.
Mais si je devais le dire différemment, si j'ai pas besoin de vendre un disque, j'ai besoin quand même d'enregistrer ma musique.
Bien sûr.
Et d'expliquer, et ça c'est un coût qui est incompressible.
Bien sûr.
Donc ce coût-là, si c'est pas un disque qui le supporte, c'est une clé USB ou ce que tu veux. Mais j'ai besoin d'expliquer ça, que si moi, tu me donnes un petit peu d'argent pour ça, peut-être que c'est au travers d'un concert, je ne sais pas
bien
comment.
Sûr.
Mais il y a une économie à trouver. Cette économie-là, elle est importante. Et moi, je n'ai pas besoin d'un stade. J'en ai pas
bien
besoin.
Sûr.
Mais par contre, j'ai besoin d'avoir des petites jauges régulières
pour pouvoir
transmettre ma passion, mon art. J'ai besoin de ça. Et si je n'ai pas ça, effectivement, ça va être compliqué.
Et je comprends.
Voilà. Et ça, c'est important de l'expliquer aux gens, parce que je crois que c'est... Voilà, il y en a qui en ont pleinement conscience, je le sais, mais il y en a plein d'autres qui ne se rendent pas compte.
Qui ne se rendent pas compte de ça, oui.
Et que n'ayez pas peur, quoi. Venez à nous, on a des choses à vous transmettre.
Bien sûr.
Et on va trouver une économie entre vous et nous, on va trouver une économie pour que moi, je puisse vivre de ça et je vais vous donner une émotion qui est... Elle sera celle du moment, elle ne sera peut-être pas à chaque fois la même aussi, parce que ça, c'est aussi la réalité...
De l'être,
d'un artisanat, de l'être, quoi.
Sûr.
On n'est pas toujours égaux face à ça, quoi. On essaye, mais autant que possible. Mais voilà, hier soir, on est dans une salle de cinéma. On a des gens proches de nous. C'est une ambiance calfeutrée. On fait le maximum pour essayer de donner aux gens. Voilà, et on va toucher des gens. Et pas d'autres, peut-être aussi. C'est ça l'enjeu.
C'est aussi l'enjeu de la rencontre aussi, qui peut être multiple et très diverse.
Voilà. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu
à
vos questions.
Non, mais tout à fait, mais absolument. Et je me disais, tout ça est vraiment très intéressant dans comment vous l'approchez. Et si on regarde aussi aujourd'hui, là, vous disiez tout à l'heure, les rencontres vous ont permis aussi de découvrir cette pratique. Qu'en est-il, à votre avis, sur la transmission, je dirais, à des plus jeunes, justement, de cette pratique? Est-ce que c'est quelque chose qui est existant aujourd'hui? Est-ce que ça l'est moins? Est-ce que certains ont envie que la tchalaparta soit effectivement accessible à des plus jeunes? Ou c'est quelque chose qui reste quand même un endroit, en tout cas, de cette pratique, mais qui n'est pas aujourd'hui mis en œuvre, en tout cas, pour être transmise à d'autres plus jeunes pour que, est-ce que dans les conservatoires, tout simplement, des lieux de pratique aussi aujourd'hui, c'est un instrument qu'on peut trouver éventuellement?
Moi, je mesure pas bien ça. Ce que je peux répondre, c'est que du côté, enfin, en Igualdé, ce qu'on appelle le Pays Basque espagnol, oui. En Guipuscoa notamment, pour le moment, il n'existe qu'une habilitation.
Oui.
Il n'y a pas de diplôme.
Il n'y a pas de diplôme par rapport à ça.
Donc, les gens qui, j'ai découvert ça justement au moment du DEM, là, quand j'ai réalisé des interviews justement. Effectivement, une habilitation qui est donnée par le gouvernement basque. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie concrètement, par exemple, qu'un tromboniste pourrait enseigner la Tchalaparta.
Alors,
je sais pas s'il faut en rire ou pas. Il a peut-être une connaissance de la Tchalaparta, il va le transmettre très bien, mais il a peut-être une méconnaissance de la Tchalaparta. Et à ce moment-là, c'est, je trouve, quand même un peu plus grave. Voilà. Donc ça, c'est pas... Voilà, je trouve pas ça très, très sain. Mmh. Mais à la fois, voilà, bon, c'est la réalité de l'autre côté. Elle est enseignée quand même dans les conservatoires,
donc.
Ce qui n'est pas le cas au conservatoire de Bayonne.
Ah, c'est pas le cas au conservatoire de Bayonne.
Non, c'est pas le cas. Là, pour le moment, il y a un département qui musique traditionnelle qui a été un peu mis en doute là justement au mois de juin là, ça a été un peu difficile. Bon, ils sont en restructuration aussi, donc.
Et pourquoi, à votre avis, il y a cette mise en doute?
C'est compliqué parce que voilà, il y a pas beaucoup d'heures.
Par rapport à ceux qui participent, aux classes que ça regroupe.
Là, je ne parle même pas de la Tchalaparta.
Moi,
j'ai fait le DEM, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais au niveau du chant. J'ai consacré un peu de mon temps sur la Tchalaparta, mais moi, je l'ai présenté en chant. Mais concrètement,
il n'y a pas suffisamment d'élèves.
En tout cas, je ne sais pas si ce n'est pas suffisant. C'est plus... il faut une intention de l'outil pour qu'on le fasse. Donc là, ça s'est mis en place.
D'accord.
Les politiques ont validé ça. Et donc là, il y a quelqu'un qui a été nommé, justement, qui est fraîchement nommé.
D'accord.
Je suis content de ça.
Ça, c'est plutôt positif, effectivement.
C'était un poste qui était tenu par Benyat Hachari. Je sais que vous allez le rencontrer bientôt.
Oui.
Voilà, il a été mon professeur. Ça a été mon professeur, et lui, donc, quand il est parti à la retraite, il n'a pas été remplacé. Voilà.
Ah, il n'a pas été remplacé.
Voilà. Son poste, ça s'est un peu poursuivi avec un professeur d'accordéon. Mmh. Et puis bon, finalement, voilà, quelqu'un est mis en poste cette année autour du chant. Je suis très content de ça. Mmh. Est-ce que c'est une fille? Elle amènera la Tchalaparta? Je ne sais pas, peut-être. Mmh. C'est possible, ça fait partie du projet d'établissement. Mmh. C'est possible que la Tchalaparta elle ne sera pas enseignée proprement dite, mais qu'il y ait des intervenants. Donc j'espère que ça aura lieu. Voilà, donc c'est deux réalités très différentes. Donc ce que
c'est
je décris, donc, c'est parce que nous, le centre conservatoire qu'on est, c'est Bayonne.
C'est Bayonne, bien évidemment.
Voilà, et après les conservatoires côté Pays Basque espagnol.
Et ça veut dire que, par exemple, il doit exister aussi un certain nombre de plus petites écoles de musique, à part le conservatoire de Bayonne. Et est-ce que dans ces lieux-là, il y a certains professeurs qui donnent cette entrée à la musique traditionnelle et dont peut-être la Tchalaparta ou pas trop?
Non plus.
Non plus.
Pour le moment, non plus. Ouais. Il y a d'autres instruments qui sont enseignés, le chichitou est enseigné, le trikitisha est enseigné. Bon, il y a des instruments enseignés. La Tchalaparta, non. Elle est un petit peu enseignée. Je pense que Jean-Claude Henrique
l'a
transmet un peu.
Ouais.
Voilà, il y a quelques personnes qui la transmettent. Moi, je n'habite pas ici. J'habite à Donosti, moi, justement. Mm. Et je n'ai pas le temps, concrètement, de le faire. Mais j'aimerais bien, à un moment donné, m'y consacrer.
De prendre un peu du temps pour cela.
Je pense que dans quelques années, je le ferai. Comme on me l'a fait, hein, c'est moi de la même manière. J'ai pas
c'est
de prétention
ça.
Énorme là-dessus, mais de manière orale telle qu'on me l'a transmise, je la transmettrai. Je fais des interventions, je travaille autour de la Tchalaparta quand même avec les enfants. J'ai quelques petits modules de pédagogie. Bon, je fais des choses, mais ça reste anecdotique quand même. Je veux dire, c'est des petites choses que je fais pendant l'année. Mais effectivement, il y a certainement une réflexion à mener autour de ça. Ça, c'est quelque chose qui est...
Est-ce que ça tient à l'instrument lui-même? Je dirais
peut-être.
Vous en citez quelques autres qui sont plus facilement enseignés. Est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce que...
Oui, la communauté de Tchalapartari, elle
est peut-être pas très importante. Ou est-ce que c'est l'instrument lui-même parce que c'est une planche toute simple et qu'elle n'a pas cet attrait? Ou est-ce que... Ou est-ce qu'au contraire, elle est tellement impulsive de liberté de rencontre qu'elle est plus... Elle amène à d'autres choses?
Non, je crois que... Quand j'en discute avec Juan Mari Beltrán, qui a enseigné à l'école de musique d'Hernani, donc lui qui a vraiment développé une pédagogie, qui a développer les rythmes aussi autour de, dans le répertoire. Il a fait un gros travail de fond, il continue. Hein. Mmh. Voilà, mais effectivement, comment je dirais ça, la communauté s'est emparée légèrement, ou je sais, faut pas le dire comme ça, c'était pas légèrement, mais en tout cas, ça n'est pas emparé totalement pour que vraiment ça aille plus loin. Je sais pas si c'est nécessaire non plus, peut-être que
oui, on peut se poser la question.
C'est pas nécessaire, voilà. Il y a des joueurs, il y a des professionnels qui en vivent, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Bon, qui développent ça fortement, justement le partenaire Chomin Bers, qui a été le partenaire de Jean-Claude, maintenant travaille avec un autre groupe, un autre partenaire, avec lequel il travaille énormément. Je sais qu'eux font un gros travail en ce moment au niveau professionnel et qui porte ses fruits. Et j'ai vraiment espoir que ça puisse
contribuer, justement.
Ils vont irriguer aussi, certainement. Mais effectivement, on constate c'est encore difficile de discuter, de s'entendre probablement sur qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qui est fondamental, etc. Il y a certainement un travail à faire de la communauté, dont je fais partie, enfin je considère en faire partie, mais si je ne suis pas actif du tout dans cette communauté-là, moi je ne suis vraiment pas actif. Hein. Mais je me dis que oui, il y a certainement quelque chose à penser. Voilà. Donc peut-être que ça viendra dans quelques années. Voilà, si moi je m'y mets par exemple, je m'y mets avec quelqu'un d'autre, bon, parce que voilà, je ne ferai pas ça seul, il faut être deux. Hein.
Bien sûr.
Et bon, peut-être que ça viendra et que d'autres le feront aussi. Ça viendra, je pense, ça se fera. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais effectivement, on est dans une période là, je ne sais pas, qui est peut-être un peu creux de la vague. J'en ai pas parlé avec Jean-Claude, justement, ce serait intéressant d'en parler avec lui, voir comment il le voit. Voilà, moi j'ai pas assez de. Voilà, là j'en parle. Mais bon, je patine un peu, c'est-à-dire je...
Oui, je comprends.
J'ai pas d'expertise là-dessus, vraiment pas. J'ai pas...
En tout cas, il y a quand même encore un élément vivace qui est là, qui est présent.
Elle est là, elle est autour de nous.
Elle est autour de vous.
Voilà, c'est possible, on a accès à elle, c'est possible de la développer.
C'est ça.
Mais voilà, il faut y passer du temps. Ce que disait Juan Manuel Beltrán, très justement, il dit, voilà, si on y consacrait le temps qu'y consacre un élève de violon, par exemple...
Bien sûr.
Voilà, ça serait certainement autre chose.
Ça serait certainement autre chose.
Voilà, il y a une communauté qui, pour forte partie, y consacre un temps un peu en dilettante, quoi. Voilà. Ouais. Comme moi, j'y consacre finalement, je pense. Il y a quelques personnes, voilà, comme Chomin, qui passent beaucoup de temps.
Voilà, qu'on fait des choix de s'investir.
Mais ils se sont mis comme professionnels, donc on ne peut pas comparer.
Ouais.
Mais pour l'autre partie, je pense qu'il y a, ouais, on y consacre peut-être pas assez de temps. Ouais, voilà.
On évoquait le chant tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait juste terminer? Vous pourriez nous chanter quelque chose a cappella, par exemple?
Ah oui, waouh.
Ça vous dirait?
Pourquoi pas?
Comme ça, ce que vous avez envie.
Oui, pourquoi pas.
Comme vous le voulez, mais ça pourrait être chouette et très sympa pour notre émission.
Puisqu'on parlait di Ciarlo Borda tout à l'heure.
Oui.
C'est un chant qu'elle a écrit quand elle avait 20 ans. Enfin, un chant, pardon. C'est un texte qu'elle a écrit quand elle avait 20 ans. Vraisemblablement, c'est un écrivain qui lui avait fait un retour un petit peu caustique sur son travail. Elle était jeune et voilà, elle lui a répondu, voilà, pas avec un texte qui dit en gros, voilà, je suis jeune, je suis libre, je joue avec les mots et c'est ce qui compte pour moi. Moi, j'ai que faire de Dieu et du diable et de ces choses-là. Moi, je vis ça, quoi. Je vis cet art là et je sais plus comment elle finit. Elle parle de brûler ça, c'est à dire de le consumer, quoi, d'en faire quelque chose, quoi. Et elle a prouvé depuis qu'elle en a fait quelque chose, parce qu'elle n'arrête pas, elle crie énormément. Et voilà, donc c'est
très bien.
J'ai mis ça en musique.
Ouais. Voilà. Je vais juste reculer un poil, tout dépend. Voilà.
Estudnik gizarteak isiltzen duena erakutsi nahi. Espaitu gizarte honek ezer gordetzen ikusten dakienari. Estutnik poesia klasikoen lege hartaz axolarik hitzekin jostatzen ari baina izjuntatuz berdin desberdin direnak Estutnik tra la 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 tra la 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 tra la 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 Estutnik Zeru debru famatu haren beldurik adiskideak bezala. Nere aldeko etxaia nere kilan baitut. Ez dut nik zeruko jinkuaren beldurik zeren goizero. Hangosua ebatxirik, bainoa beti. Mundu guzia
Merci beaucoup Thierry Biscari pour ce temps, pour cet entretien et ce très riche échange.
Mais je vous remercie et à une prochaine.
À très bientôt. Voilà. Résonance sur Radio B, La radio a un espace essentiel de lien, d'inventivité, de recherche, d'exploration. Voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre les propos, les réflexions, le parcours aussi de Thierry Biscari, dans les jardins de Saint-Jean-de-Luz. Et nous avons pu entendre, à la suite de cet échange, le groupe Horeca Cha, avec lequel Thierry Biscari a collaboré et travaille régulièrement, dans une pièce justement intitulée Horeca, et qui fait partie de l'album Quercus Endorphina, paru il y a déjà quelques années. Alors, cette pièce, Horeca, veut dire équilibre. Et je vous fais part un petit peu des propos que les musiciens ont souhaité nous livrer pour mieux appréhender l'esprit de la pièce que nous avons écoutée ensemble. Voici ce qu'ils nous proposent, comment ils ont imaginé, comment ils peuvent parler de cette pièce. Quelquefois, il arrive que deux personnes soient en train de vivre la vie ensemble, comme deux jambes d'un même corps qui marchent et bougent, offrant à chaque moment un nouvel équilibre ou déséquilibre, niant l'équilibre avant qu'il en se surgèle et devienne rigide. Des bois et bâtons, maquillas, en l'air, sans arrêter de trembler mais jamais arrivant à toucher le fond, en équilibre vivant. Dans ce que nous venons d'entendre, nous découvrons ici une chalaparta composée de plusieurs poutres, donc proposant des hauteurs différentes et constituant ainsi un clavier. C'est sur cette recherche de ce que peut être un équilibre-déséquilibre d'un antre vivant entre deux frappes que nous quittons le Pays Basque et l'histoire de la chalaparta. Nous accueillerons très prochainement un autre très grand artiste, improvisateur, Benyat Hachari, qui nous livrera lui aussi sa réflexion, ses pensées, notamment sur l'improvisation et bien sûr sur la chalaparta. Et juste pour déjà donner un petit avant-goût de cet échange avec Benyat Hachari, voici ce qu'il dit à propos de l'improvisation. L'improvisateur n'est pas un animal de zoo, c'est quelqu'un qui essaye d'être normal, qui essaye de prendre conscience de cette force avec sa liberté, sa joie, son esprit de recherche. Et là, c'est un monde inouï qui s'ouvre, une coagulation de science, de connaissances avec l'intuition. Mais nous sommes dans une société qui veut faire de nous des objets aliénés, point de suspension. Donc voilà des propos anticipateurs, mais qui peuvent préserver d'une belle rencontre en perspective. Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien sûr podcaster la présente émission, soit en allant sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou bien sûr sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Bonne journée avec Radio B et à très vite.